Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, ici les attachés de presse, c'est ce genre de CEPAC 83. Et oui, un vieux has-been qui reprend l'animation de cette émission aujourd'hui. Je serai pas tout seul comme has-been, mais je serai pas tout seul aussi de l'équipe actuelle. Je serai en compagnie de Renaud, Mathieu, Marc-Olivier et Eden pour un petite émission légère d'une heure sur qu'est-ce qui nous a marqué en 2024 sur la scène politique. À tout de suite tout le monde. Bien le bonsoir, messieurs. Bonsoir, mon Dieu. Bien le bonjour, pardon.
Bonjour.
Comment vous allez d'abord?
Ça va bien. On réussit à toffer la fin de session. Mais je suis content quelque part aussi que d'être avec vous en ce moment. Fait que
toujours en vie. Très content d'être parmi vous aussi. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu m'asseoir ici pour discuter parce que, comme vous le savez, j'aime ça la politique, mais j'aime surtout en parler.
Un peu comme tout le monde, je pense que je te rejoins là-dessus, Mathieu. Et pour être vraiment franc, j'en ai des frissons. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver aujourd'hui. Non, blague à part, ça fait très longtemps que j'avais pris ce micro-là comme animateur aussi. J'aurais la console et tout. J'espère que ça va bien se passer. Il ne devrait pas avoir de problème, évidemment. Mais non, très heureux d'être ici. Puis on avait eu l'idée, c'est ça. Merci Renaud de nous avoir lancé. Merci de nous avoir tendu la main, oui, pour participer à l'émission aujourd'hui. Tu voulais faire une petite émission légère, nous aussi, revenir un peu sur ce qui nous a marqué dans, on peut dire 2024 en général, mais surtout cet automne. Mm-hmm. Puis c'est drôle qu'on dise ça aujourd'hui parce qu'il y a eu des grosses nouvelles ce matin en se levant. Ouais. La démission du conseil des ministres de Chrystia Freeland, du gouvernement canadien.
La vice-première ministre, là, c'est vraiment pas rien.
Ministre de grande qualité, je vais l'appeler ici, ministre des Finances, qui claque la porte comme ça, qui le mentionne dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, assez marquant, qui en gros critique Justin Trudeau et son, je vais appeler ça son attitude, ou qui voulait la mettre dans un autre cabinet. Ben non, j'accepte pas ça et je m'en vais. Mm-hmm. Ça fait... Comment vous avez réagi ce matin en voyant ça? Moi, j'ai capoté, là, justement. Là.
Ben, faut déjà dire qu'elle, elle est députée depuis plus que 2015, en fait. Elle est députée depuis 2013, donc ça fait maintenant 11 ans qu'elle est députée. Donc, c'est une... Elle connaît la game politique. On l'a longtemps vue comme étant potentiellement la successeur potentielle, évidemment, de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada. Donc, ça l'a quand même été choquant. Ajoutons à ça que c'était la journée du dépôt de la mise à jour économique. Donc, il était censé avoir une présentation de la mise à jour économique. Là, c'est un peu en suspens. On ne sait pas exactement où ça s'en va, mais selon la loi, ce dépôt-là doit se faire en décembre. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus énormément de temps pour le faire. On est déjà à la mi-décembre. Les jours avancent, donc évidemment, on est en suspens, mais on se pose des questions.
Oui, puis en plus, c'est supposé d'habitude avoir lieu à l'automne.
Oui.
On était déjà en retard, c'est fou.
Absolument.
Et ben moi, ce que je dirais, c'est que c'était la ministre des Finances, puis elle a quand même dû, depuis plusieurs années, être solidaire de mesures envers lesquelles elle n'était probablement pas favorable. Et là, ça devient insoutenable. Ça devenait insoutenable de soutenir le gouvernement de Justin Trudeau, je pense, depuis une couple de mois. Surtout avec ce dernier projet-là économique, budgétaire, qui prévoit le congé de TPS ainsi que le chèque de 250$.
Mais, on aime ça, hein?
Justement, c'est sans le dire explicitement, implicitement, elle sous-entend que c'est ça aussi qui fait que là, c'est trop pour elle. Là, elle peut pas... Elle a beau être solidaire et loyale du gouvernement, là, ça c'est trop.
Elle a évoqué aussi l'élection de Donald Trump, puis un peu les menaces qu'il mentionne concernant le Canada, les tarifs douaniers sur certains produits, mm-hmm. et dans tout le ce qui s'est passé depuis son élection, mm-hmm. là, la visite de Legault à... Voyons, la demeure là, à Donald Trump.
Mar-a-Lago,
merci, mon Dieu. Mais au-delà de ça, c'était mentionné, puis moi, ce que je retiens de tout ça, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui n'était pas d'accord avec l'orientation de Justin, là, à ce juste titre, puis qui voulait
Mais elle a bien expliqué
elle
en très,
très bien
peu
expliqué,
de mots.
Elle a en effet. Là. Allez,
peut-être pour ajouter à ça, c'est un peu, on est un peu dans le questionnement actuellement. Bon, il n'y a pas eu encore de réponse ou de, plutôt d'une réaction de la part du cabinet de Justin Trudeau. À voir, parce que c'est une, je veux dire, c'est la vice-première ministre du Canada qui est partie pas du parti, elle n'a pas démissionné totalement, elle est vraiment partie du cabinet des ministres. Là. Donc, elle a laissé son poste sur place. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Justin Trudeau va se faire rencontrer dans un caucus bientôt?
Il parlait ce matin, là, il y avait une discussion du caucus. Fait que...
Francis Drouin a littéralement mentionné que Justin Trudeau doit partir.
Mais Francis Drouin, c'est d'arrière-ban.
Non, on est d'accord. Là, je le mentionne mais comme ça.
Et il avait déjà eu des propos en ce sens-là. Là, avec Justin Trudeau.
C'est pas nouveau. Pierre Poilievre vient de sortir à 12h58. Tout est devenu hors de contrôle, citation de Radio-Canada. Bref, je voulais juste vous le partager. Ça bouge assez vite.
Oui, c'est vraiment en direct que ça se passe.
Comme tu as dit, Mathieu, Justin se fait silencieux. Honnêtement, j'espère que son cabinet est au courant. Là, parce que pour vrai, ce genre de bombe-là, c'est une assez bonne gestion de crise. Je ne voudrais pas être dans leur
situation. Ça doit être planifié, ce genre de choses-là, dans la vie.
Je sais pas c'est quoi le degré de planification, ouais. Justin Trudeau, mais dire vendredi à ta vice-première ministre, hey, « By the way, là, tu présentes de quoi? Tu t'en vas sous le feu des projecteurs lundi? » pour faire la mise à jour économique, je te mets cette charge-là, ben, dans la semaine qui suit, qui s'en vient, tu ne seras plus la ministre des Finances. C'est quoi ça?
C'est vrai qu'il y avait du tractage avec... je me souviens plus de son nom, un ancien de la Banque du Canada.
Mark Carney,
je me souviens plus de son nom. J'avais Mark en tête, mais je me souviens plus de son nom de famille. Des tractations entre le bureau de Justin Trudeau et Mark Carney pour potentiellement occuper la place de ministre des Finances. Puis ce qui avait été dit dans les informations, c'était que c'était pas encore réglé, là, mais que ça s'en venait potentiellement. Alors, on verra c'est quoi la suite de tout ça. On voit que quand même certaines questions à se poser, mais d'après moi, on va avoir un déboulement des événements très rapide, je dirais.
Il est fini, là. Je veux dire, non, mais ça se pourrait qu'il doit démissionner. Je veux dire, c'est une humiliation profonde pour lui. Là.
C'est une humiliation. Puis
être désavoué par quelqu'un.
Oui, puis tu sais, je veux dire, la seule affaire qui moi me semble un peu, tu sais, qui va faire mieux que lui? Je ne sais pas. Là, je me pose la question. J'espère qu'ils y ont pensé parce que
il y a clairement des gens qui peuvent faire moins pire que lui, en tout cas, je pense.
Peut-être. Je ne sais pas. Là, je pose la question de même.
La liste est courte. Il n'y a plus de crédibilité. Tous les premiers ministres provinciaux sortent chacun de leur bord avec leur propre version de ce qu'ils vont faire vis-à-vis des États-Unis. Doug Ford qui dit « Les hélicoptères, on va couper de l'énergie. Legault qui s'en va faire d'autres choses. » Là, il n'a pas l'air d'être en contrôle du pays. Là.
J'ai hâte de voir si ça va se faire avant Noël ou après Noël, ou pas du tout, mais parce que là je pense qu'il n'y a pas eu de bombe à ce niveau-là pour qu'il puisse réellement vraiment démissionner, mais là, tu as mentionné qu'il ne le ferait pas, qu'il allait se représenter, qu'il allait mener ça à terme. Mais là, à ce stade-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait le faire couler plus que ça. Là. C'est rendu, comme tu l'as mentionné, plus qu'une humiliation.
Mais c'est quoi sa crédibilité aussi à aller devant Trump rendu à ce stade-ci, tu sais? De quoi il a l'air? Il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a un mandat. Il n'a pas de mandat électif de la population.
Mais en même temps, c'était peut-être pour lui une occasion de ressaisir puis de reprendre un peu le narratif, d'essayer de changer ce narratif-là de Justin Trudeau. Bon, il est assez mou, il est ci, il est ça. De se dire, hey, moi, Justin Trudeau, je suis là depuis 2015, je suis le premier ministre, j'ai déjà dealé avec Donald Trump, m'a redealé avec lui puis on va refaire un autre accord. Tu sais, je sais pas, là, est-ce que ça aurait pu être un narratif?
Peut-être plus, mais
maintenant,
là, avec Amatrin.
Rappelons que l'usure du pouvoir fait son effet, que peu importe ce qu'il ferait, ça peut paraître... Genre, il y a plus de chances que ça paraisse mal que s'il avait fait ça en début de mandat, lorsqu'il était au plus fort de sa popularité puis au plus fort dans les instances politiques. Alors, à voir dans les prochaines heures et prochains jours comment que Justin Trudeau va réagir. Puis là, visiblement, en tout cas, il y a quelques voix dans son caucus qui se lèvent contre Justin Trudeau, mais... Il l'a déjà vécu il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Donc, est-ce que c'est ça qui va le faire tomber? Je ne le sais pas. On ne le sait pas. On le saura bientôt. On le saura très bientôt, en fait.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand les prochaines élections. Est-ce qu'on les laisse perdurer jusqu'à l'automne ou on les déclenche cet hiver, direct en revenant?
Ça s'en vient, là.
Des vacances de Noël. Imagine faire du porte-à-porte à moins 30 un mercredi soir de janvier. Ça va être assez comique, là, blague à part. Les élections en hiver, toujours pas... c'est toujours pas un bon moment. Je serais curieux d'entendre les propos de « c'est quand la meilleure saison pour faire des élections? » Parce que bon, je suis un peu fou des élections, le timing et tout ça, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui pour le moment. À voir si Justin va pouvoir suivre plus qu'un mois. On lui donne combien de temps? Un mois?
Oh ben...
Deux jours? Cinq heures?
ça dépend aussi du nombre de temps qu'il... Mettons, imaginons là, que dans la prochaine semaine, il quitte, il dit « Je ne serai pas premier ministre, je démissionne, je laisse ma place à... » insérer le nom que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on laisse du temps pour que cette personne-là se fasse plus connaître, qu'elle développe une plateforme? C'est aussi ça. Là,
parce ça va que dépendre Justin du NPD Trudeau, aussi.
Oui, absolument. Ça dépend aussi. Justin Trudeau, est-ce qu'il a vraiment envie... Imaginons qu'il quitte, est-ce qu'il a envie de planter son parti? Je suis pas si sûr de ça, moi. Moi, d'après moi, il va peut-être essayer de faire genre « OK, vous m'avez planté, mais disons, on va garder les intérêts bon, à la fois du Canada et du parti, puis on va essayer de donner du temps au parti pour se repositionner puis recréer une plateforme. » Je ne sais pas, là. On verra comment il se positionnera.
Tout un choix à venir. Charles Sauditrice et les attachés de presse sur la maison de CFA 83. On s'en va à courte pause et on continue à parler de plus en plus de politique comme on le fait à chaque lundi. À tout de suite. De retour aux attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3 avec un nouveau joueur ce midi par téléphone, Marc-Olivier qui est de retour. Marco, est-ce que tu nous entends bien?
Oui, je vous entends super bien les gars, ça va bien?
Ouais, salut ouais. Marco!
Bon midi.
Merci d'être présent avec nous. On était pour parler d'élections, d'élections. Mon Dieu, c'est déjà dans un an, mais c'est pas les élections qu'on va discuter. Politique municipale, Sherbrooke-Oise ou de manière générale? Si Renaud voulait partir sur la politique municipale saguenéenne.
Oh, mais... On pourrait parler de... Il y a du chaos aux quatre coins du Québec. Hein.
Oui, c'est...
Oui, ben, exactement. Là, quand j'ai lu un peu là, la story Instagram, le déboire au Québec de la politique municipale, j'ai pensé à Gatineau, j'ai pensé au Saguenay, j'ai pensé à Montréal, j'ai pensé un peu à Sherbrooke. Donc, un peu la nouvelle vague là, de 2021 là, qui s'éteint tranquillement, là. Même à Québec, ça va pas nécessairement super bien pour Bruno Marchand. Pour l'instant, le candidat à la mairie en avance dans les sondages, c'est même pas un candidat. Donc, ça peut donner une idée à quel point ça va plus ou moins bien à Québec aussi.
Ben, on dirait que j'ai l'impression que ça va juste bien à Longueuil puis à Laval, mais je peux peut-être me tromper. Les gens de Longueuil puis de Laval peuvent nous appeler. Là. Je prends les appels. Là. Mais blague à part, beaucoup de mouvements politiques municipales cherbourgeoises, comme tu l'as mentionné, Marc-Olivier. Ben, deux conseillères de la ville de Sherbrooke, issues du parti cherbourgeois, Sherbrooke Citoyen, ont quitté le caucus pas plus tard que vendredi. Les deux en même temps. Geneviève Laroche, conseillère du district d'Ascot, ainsi que Joannie Bellerose du district de...
Des quatre saisons.
Des quatre saisons, merci. Bon, la fatigue aujourd'hui, non. Donc, oui, ça a fait une bombe, en fait. Ça a commencé plus tôt dans la semaine avec Mme Bellerose qui annonce qu'elle n'était pas satisfaite de comment certains dossiers avançaient ou n'avançaient pas à la mairie et au conseil exécutif de prime abord aussi. Et là, ça s'est enchaîné deux claquements de porte à ce stade-ci. Marco, je ne sais pas si tu voulais embarquer là-dessus pour rebondir après, là.
Ben oui, en fait, du côté de Joannie Bellerose, il y avait déjà une réflexion qui a déjà été entamée. Là. C'était pas nouveau qu'elle ait une réflexion par rapport à son avenir à Sherbrooke Citoyen. Du côté de Geneviève Laroche, j'étais un peu plus surpris là, de son départ, là, en toute honnêteté. Puis, tu sais, j'ai lu les deux posts Facebook là, qui ont été publiés de manière simultanée, là, vendredi ou jeudi dernier, là, je ne sais plus de la journée exacte. Mais, tu sais, de ce que j'en comprends, si on analyse vite fait un peu là, ce qui a été écrit, c'est sont pas nécessairement d'accord avec où est-ce que le parti s'en va au courant des prochains mois, en vue de la prochaine élection. C'est sûr que du côté de Sherbrooke Citoyen, la perte de Geneviève Laroche est quand même importante, à mon sens. C'est un district qui était assuré de rester à Sherbrooke Citoyen lors des prochaines élections. Geneviève Laroche, quelqu'un qui est relativement apprécié dans son quartier, c'est quelqu'un qui est très connu dans son district aussi. qui fait avancer des dossiers. Donc, pour moi, c'est vraiment une perte là, importante pour chaque citoyen, au point que je me questionne si aux prochaines élections, il va rester un maire Sherbrooke citoyen ou même encore là, un ou deux conseillères là, de Sherbrooke citoyen. Là. Je crois que Laure, leur sorte la voix, a des très fortes chances de se faire réélire. Mais c'est du côté de Mme Lose aussi. Là, c'est un district là, qui est resté aux mains des Sherbrooke citoyen au courant des dernières élections. Mais du côté de Mme Boileau, pour moi, il y a un incertain. Puis même au niveau de la mairie, là, avec Marco Bibeau qui annonce sa candidature. Donc, c'est pas des beaux mois qui s'en viennent là, pour Sherbrooke citoyen.
Ce que quand j'ai appris la nouvelle de Mme Laroche, mais aussi de Mme Melrose en même temps, c'était des personnes, des conseillères qui reflètent exactement le profil des personnes qui voulaient s'impliquer à Sherbrooke citoyen et qui représentent aussi autant la base militante que les personnes votantes, à mon sens. Donc, c'est certain, ça a été choquant là, de ce départ, mais au final, il reste encore beaucoup de temps à l'élection. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On sait que tu l'as mentionné, Marc-Olivier, la candidature de Marc-Claude Bibeau fait du bruit. On va voir qu'est-ce que ça en a l'air. Le nouveau parti Vision Action Sherbrooke aussi, qui prend de plus en plus de place, mais qui prend de l'ampleur en quelque sorte, qui prend ses aises, je peux le dire comme ça, de manière pas aussi rapide qu'on peut l'entendre ou présager, mais ils vont être là aussi. Attendons de voir qui va se présenter au sein des différents sièges ou à la mairie. Comme tu l'as mentionné, je pourrais ajouter... Marc-Olivier, je pourrais ajouter le nom de Catherine Boileau aussi dans Brompton, qui fait de l'excellent travail, qui est très, très apprécié de son district. Je crois aussi qu'elle a une grande chance de se représenter et de remporter. Mais, encore une fois, c'est moi qui parle le 16 décembre 2024. Là. C'est encore beaucoup de temps. Donc... C'est sûr que ça fait mal, mais... vas-y, Mathieu.
Je peux peut-être ajouter aussi, il y a plusieurs personnes qui considèrent, ou plutôt qui pensent à se lancer dans la mairie. Il y a notamment Mme Annie Godbout, qui est la conseillère du district de Rock Forest. Il y a Danielle Berthold, qui pense elle aussi. On sait que les deux ont cette prétention-là. Il y a un sondage, d'ailleurs, qui est sorti, il y a de cela quand même quelques mois. Un sondage Somme 107.7. Donc, ce sondage-là révélait que dans les intentions de vote là, par rapport à la mairie, on voyait que Marie-Claude Bibeau partait avec une longueur d'avance à 27%. Mais on voyait que, finalement, il y avait énormément de gens qui ne connaissaient pas les personnes qui voulaient se présenter à la mairie. On voyait vraiment qu'il y avait vraiment, je dirais peut-être pas un désintérêt, mais visiblement, le sondage a été fait beaucoup trop tôt. J'aimerais ajouter quand même, bon, ça c'est peut-être moi qui vois des complots un peu partout, mais le sondage a été lancé sur une période de 2 semaines, mais la veille du début, quand il allait recueillir le sondage, donc aller sonder les gens, juste la veille, il y a eu le lancement de campagne, la confirmation que Bibeau se présentait à la mairie de Sherbrooke la veille. Donc,
sondage 177, là.
Sondage, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a eu peut-être de l'information qui a été coulée? Est-ce que c'était prévu? Ou bien, puis après ça, on peut regarder les résultats. Est-ce que ça veut dire que le résultat de Marc-Claude Bibeau est, dopé, là, disons ça comme ça, par le fait qu'elle a lancé sa candidature la veille du début des sondages? Peut-être. Et c'est pas pour dire que c'est pas une bonne candidature, c'est plus pour dire il y a quand même un contexte, un environnement autour de ce sondage-là qui peut favoriser une personne. On voyait que Berthold était à 9%. On voyait que Raïs Kibonge, qui était même pas encore le nouveau chef de Sherbrooke citoyen, qui était à 9% lui aussi. Donc on voit que pour le successeur de Evelyne Baudin, il a évidemment de l'espace pour se faire connaître, parce que visiblement, à 9%, il n'est pas encore assez connu pour faire face pour l'instant à Bibeau, qui est selon le sondage à 27%, mais on parlait d'environ 40% des personnes qui étaient indécis. Ce qui est énorme, là, 40%. Là. C'est énorme. En politique provinciale, ça n'existe pas vraiment, là, des chiffres comme ça. Là. Mais évidemment, en politique municipale, c'est différent. Alors, voilà.
À suivre, je ne sais pas si Renaud, tu avais un quelconque commentaire. Là.
Non, moi, je pense juste au Saguenay là, en ce moment, là, qui me fait toujours désespérer. Non, c'est Sherbrooke, ça va peut-être pas très bien, mais c'est rien comparé au Saguenay, fait que moi ça me console.
Est-ce qu'il y a du logement qui se construit à Saguenay? Est-ce que ça avance, ces dossiers-là?
Pas assez rapidement, je dirais, non. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pas claires. Ça fait très longtemps que... Puis c'est un des projets forts que la mairesse Julie Dufour annonçait, de dire on va construire des centaines de logements. Genre, c'est parce qu'il y a comme un, en plein milieu du centre-ville, un gros terrain vague avec une vieille autogare, un vieux stationnement. On n'a même pas encore réussi à dire clairement s'il va être démoli, le stationnement. Puis on est rendu à 3 ans après, là. Fait que...
Des grands changements nécessitent beaucoup de temps.
Oui, puis aussi de la concertation. Et la mairesse n'est pas très bonne là-dedans parce qu'elle a été désavouée par une majorité de son conseil municipal et elle persiste et signe et reste. C'est sans compter les procès judiciaires contre elle pour manœuvre électorale frauduleuse.
Oui, c'est juste mal à dire. Moi, c'est surtout cet aspect-là. Parce que le fait qu'elle soit dénoncée par la majorité du conseil, ça, moi, pas tant que ça me choque pas, mais ce genre de choses-là pourrait arriver à Sherbrooke parce que le parti est minoritaire. Donc, ouais. Pour moi, je dis pas que ça vaut rien, je dis juste qu'il faut le nuancer. Ce qui me choque plus, c'est les histoires de fraude électorale qui me semblent être un gros enjeu quand tu es une mairesse qui veut se faire élire de manière démocratique. Donc, voilà.
Ouais. Ça regarde mal.
Ouais, ça regarde mal. Mais peux-tu le résumer en 10 secondes?
Bon, OK.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
C'est quoi les manœuvres électorales?
Ouais,
ben,
c'est
qu'en 2021, en fait, elle serait allée voir des candidats ou candidats potentiels à la mairie en leur disant « Hey, présente-toi pas, puis en échange, tu vas avoir un poste ou un avantage une fois que je vais être mairesse. »
Ah, politique municipale à son meilleur.
Mais c'est des allégations, hein. C'est des allégations. Ouais. C'est pas confirmé. Mais il y a quand même, c'est quand même 3 personnes différentes.
Est-ce que c'est sorti récemment ou
non ça fait un certain mois.
Temps. Ça faisait... Non, mais c'est ça, je m'en disais. Donc, c'est depuis 2024, si je comprends bien.
Oui, les procédures étaient judiciaires en coulisses. Okay. Et le DGEQ a porté des accusations formelles. C'est ça, en 2024, cet automne.
OK, je comprends mieux. Je pensais justement que ces manœuvres-là n'avaient pas été dénoncées à la base et donc que ça avait été fait tout récemment. Puis j'étais genre, c'est une drôle de façon de faire. Mais maintenant, je comprends mieux.
Je vous dirige vers... Je viens de penser à ça en parlant de politique municipale, puis je sais pas si ça va vous faire sourire un petit peu, les gars, parce que quand on a vu dans les médias l'information, je sais pas, on recule dans le temps, là, Catherine Fournier avait annoncé un communiqué, je fais le point sur ma carrière politique le lendemain matin, on s'était tout écrit en disant, ben là, ça y est, quitte. Ah, ça y est.
J'avoue avoir été les premiers à dire, oh mon Dieu, c'est là que ça se passe.
Puis finalement... J'ai trouvé ça... J'y donne. C'était très beau. Elle l'a mentionné vraiment. Mais ouais. À chaque fois qu'on annonce quelque chose, on est tellement pessimiste envers la politique que quand on fait ce genre d'annonce, on prétend tout de suite le négatif. On prétend tout de suite qu'on quitte ou quoi que ce soit. Ben non, je continue. Puis je crois que c'est une nouvelle d'importance qui mérite d'être mentionnée au même titre qu'une mauvaise nouvelle.
Ouais. Mais ça laissait paraître qu'elle se donnait beaucoup d'importance.
Oh, absolument.
Ouais, ça, j'avoue. C'est vrai.
Mais en même temps... Ouais, fair enough.
Mais... Non, mais je comprends la démarche, puis je pense que c'est quand même un certain bon coup de com'. Là. Je trouve que c'est correct, là. Mais il faut faire attention.
Mais tu sais, avec les médias qui font constamment des coups bas aux politiciens, tu sais, en prenant de travers, tu sais, une déclaration, quelque chose comme ça, ben là, que le politicien réussisse à prendre de travers les médias, bah c'est de bonne guerre, je pense.
Mais tu sais... mettons que j'avais peut-être un petit conseil, je pense qu'il ne faut pas qu'elle fasse trop souvent des petits coups de main.
Les gens vont arrêter de la prendre au sérieux.
C'est peut-être moi qui je sais pas trop, qui extrapole, mais je ne sais pas si c'est extrêmement payant. Mais en tout cas, visiblement, elle a eu une bonne couverture par rapport à son annonce. Fait que peut-être ça, on peut y donner. Voilà.
Marco, on te voit pas de face à face, là, donc difficile de voir si tu veux interagir ou pas, mais tu as un autre élément qui t'a marqué, que ce soit au niveau politique municipale, on peut aller encore une fois ailleurs, comme on l'a mentionné tout le monde, une émission d'une heure très relaxe, à la bonne franquette. Là.
Ben, je peux faire un peu du pouce là, sur ce que Renaud mentionnait par rapport à ce qui se passe au Saguenay. C'est une station que j'ai vue à Saint-Jérôme. Un peu le même stratagème, le maire, l'ancien maire, je devrais dire, Stéphane Maire, en 2017, avait soudoyé là, des potentiels candidats en disant « Ben, présente-toi pas contre moi, je vais te donner un poste de conseiller municipal, ou des postes dans l'administration municipale. » Puis, même quand le DGEQ a porté ses accusations, puis finalement, il a été déclaré coupable. Mais il est resté en poste tout le long de l'enquête de la part du DGEQ. Et lorsqu'il a été déclaré coupable, il a perdu son siège de facto et a dû payer une amende, là, je pense, c'était de 5 ou 10 000 $ là. Donc, tu sais, je peux quand même comprendre pourquoi que la mairesse de Saguenay veut rester en poste. Mais c'est sûr que, vu ce type d'accusation-là, je comprends aussi le conseil de vouloir là, de plus voir ce genre de personne-là pour l'instant, le temps de l'enquête. Là. Mais ça s'est déjà vu, c'est pas nouveau, là, ça, je veux dire.
Mm-hmm. Ouais. J'ai l'impression que c'est, sans dire que ça devient cliché, mais toute cette espèce de game personnel envers les individus dans ce, au palais municipal, puisque on, le gouvernement de proximité, on connaît les gens qui se présentent, on sait où ils habitent. C'est ce genre de d'informations qui peuvent sembler clichés, mais qui peuvent accentuer ce truc-là. Peut-être que c'est moi qui est pessimiste ou quoi que ce soit, mais une chose est certaine, en espérant que ça se passe, ça s'améliore plus au Saguenay.
Mais ça, on n'a pas parlé de Trois-Rivières non plus. Là, à Trois-Rivières non plus, ça va pas super bien. Là, le maire a déposé son budget. Il n'a pas voulu l'expliquer.
Il peut t'en dire plus.
Ça donne une idée à quel point ça va pas super bien et que le climat est toxique.
C'est on pourrait extrapoler en disant à l'univers des médias sociaux, de la nouvelle instantanée, etc. etc. On dirait le climat toxique puis ce type de... Le climat anxiogène, je peux le dire comme ça, peut évidemment plus se prospérer là, à ce niveau-là. Là. Mais chers auditrices, je vous laisse en musique. Je vous laisse avec De Gomme, rappeur qu'on connaît très bien ici, étudiant à l'Université de Sherbrooke notamment. Là. Donc, on revient dans 2 minutes. À tout de suite, tout le monde. De retour aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Je crois qu'on n'a pas le choix de parler de politique québécoise, provinciale et de notre cher gouvernement qui... j'essaie de trouver un autre mot qu'il l'échappe, mais bon, vous pouvez...
Ouais.
Je prends les idées.
Difficultés. Non, mais c'est de la gestion de crise à la petite semaine, puis on dirait qu'il n'y a pas d'horizon puis de pensée stratégique. Puis, si je peux y aller sur un exemple concret, ce serait celui de la laïcité. Dans les derniers mois, Legault a eu une excellente opportunité. Il y a eu une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour créer du consensus au Québec sur la question de la laïcité. Avec toute l'affaire de l'école de Bedford, ben, on a vu après que ce n'était pas le seul endroit où la laïcité, au-delà des signes religieux, n'était pas respectée. T'sais. Et il y avait clairement au Québec un mouvement pour étendre le champ d'application de la laïcité, puis essayer de rebâtir un peu les liens, alors qu'à plusieurs endroits au Québec, le tissu social, on l'a vu, est brisé. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le rapport de Guillaume Brousseau et Sébastien Proulx sur les enjeux constitutionnels qui est sorti. Et dans leurs recommandations, ils recommandent notamment de créer une loi cadre sur la politique de gestion de la diversité culturelle, donc qu'on appelle ça l'interculturalisme ou la convergence culturelle. Dans les deux cas, d'essayer de créer du consensus au Québec pour qu'on sache comment intégrer les gens issus d'autres origines et qu'on crée plus de liens sociaux, qu'on renforce le tissu social québécois. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement décevant, alors que Legault avait cette opportunité-là. C'est sans compter aussi le colloque de l'Institut de recherche du Québec sur la question de la laïcité qui a eu lieu cet automne, où ils ont déterminé qu'il y avait plusieurs pistes de solutions pour améliorer le consensus au Québec sur la question de la laïcité. Et au lieu, justement, de travailler sur ce consensus-là, qui est la tradition québécoise politique, par ailleurs.
À peu près tous les partis étaient derrière cette espèce de consensus-là.
Même les libéraux.
Oui, absolument, absolument.
Et qu'est-ce que Legault a décidé de faire? De créer de la division dans la société en disant qu'il fallait bannir les prières en public la semaine dernière. Moi, je ne l'ai pas compris.
J'ai pas trop compris. Puis, en fait, j'ai même pas compris comment il a pu penser et le dire, parce que... Et là, peut-être que je me trompe, puis peut-être que des constitutionnalistes pourront me dire le contraire, mais je ne sais même pas si ça pourrait être applicable. Je veux dire, je comprends là, l'aspect de ne pas bloquer des rues, mais l'histoire de pas de prière dans un parc, je suis comme, difficilement applicable. Puis quand tu as une loi, puis tu la mets en place, puis tu n'es pas capable de l'appliquer, ben ta loi, elle sert à rien. Puis
Puis c'est quoi le principe? Si ça contrevenait seulement à la Charte canadienne des droits et libertés, bon, moi, au pire rendu là, je m'en fous, mais je pense que ça contrevient même à la Charte des droits et libertés du Québec.
Oui.
Donc.
Vas-y.
Il n'y a pas juste ça dans ce que vous dites, les boys. Il y a aussi une tendance chez François Legault de faire beaucoup d'amalgames.
Mm-hmm. Oui.
Puis ça l'est fait reprocher en entrevue. J'ai écouté des entrevues avec Patrick Lagacé ou FM 93 avec Patrice Roy. Effectivement, l'amalgame entre les gens qui ont pris dans la rue une fois, puis ça arrive. Tu sais, c'est un sur mille, là. C'est pendant une manifestation, les gens ont manifesté, puis après ça, ils ont plié dans la rue pour la bloquer, la rue, là, finalement.
Ouais.
Mais ensuite, j'ai fait des amalgames entre ça, puis les campements pro-palestiniens à l'université McGill, pour justifier en fait son action, puis l'intervention d'une politique, là, plutôt politique de la part de Jean-François Raverge. Fait qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en ligne de compte dans ce genre de dossier-là, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgames faites pour en arriver à une solution, puis que chez le Québécois moyen, ça passe.
Ben, tu sais, c'était vraiment comme... Ils prenaient toutes les espèces de sujets récents qui ont fait, tu sais, polémique, de manière plus ou moins, tu sais, relatif, là. Puis ils ont comme un peu tout mis dans le même sac, ils ont brassé le sac, puis ils ressortis avec « Il faut qu'on empêche les prières dans les lieux publics ». Puis là, t'es comme « Hmm ». Mais il me semble que t'as mélangé beaucoup de choses qui me semblaient qui n'avaient pas rapport. Les manifestations sur le campus de McGill, c'est pas la même chose que des prières dans la rue. Les prières dans un parc, c'est pas la même chose que des prières sur une autoroute. Tu sais, c'est pas... Genre, il est vraiment tout mélangé, comme je te dis. Il a mis tous les sujets dans le même sac, il a brassé un petit peu, il a ressorti ça avec une solution qui a comme sorti de son chapeau, hop, de même. Mais visiblement, il a comme pas exact... Puis je pense sincèrement que ça n'a pas tant pogné en bon québécois. Je pense pas que ça l'ait pris dans le discours puis dans les médias tant que ça. Il y a surtout eu beaucoup de critiques par rapport à son point de vue.
C'est un premier ministre qui est en gestion de crise, qui tente par tous les moyens de retrouver un peu la magie qu'il y avait pendant la COVID. Je fais beaucoup de raccourcis, mais
non,
c'est
mais
même
c'est
comment je le vois. Là. C'est aucunement quelqu'un en contrôle, puis c'est on dirait qu'on ne voit pas d'amélioration depuis la fin de la pandémie. On dirait que c'est bout par-dessus bout, erreur de communication pour des enjeux, amalgame, comme vous le dites. Puis pour moi, ça fait juste plus de sens.
Puis ajoutons que la CAQ a été élue avec des promesses, mettons, avec la loi 21 ou la loi 96,
qui étaient justement,
oui, absolument,
aussi,
ouais. qui étaient justement des initiatives de je vais dire, comme disait Renaud, d'espèce de créer du consensus. Puis ça a fonctionné. Je veux dire, la loi 21, bon, on en dira ce qu'on en voudra sur le plan juridique. Ben, même sur le plan juridique, a été approuvé par la Cour d'appel. Mais ça a créé du consensus. La majorité des Québécois sont en faveur. Et puis aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où on se parle, il n'y a plus tant de remise en question fondamentale sur la loi 21. Même plusieurs partis qui étaient contre, qui disaient, bon... on peut nuancer, on peut peut-être le laisser passer, on peut mettre la clause dérogatoire. Donc, la CAQ a été élue en faisant des mesures de création de consensus, notamment sur l'identité. Puis, visiblement, là, dans ce cas-ci, il n'a pas été capable de s'accaparer de ce narratif-là, puis de bien le faire, puis de bien le traduire dans l'esprit, puis dans les médias.
Puis, ils viennent de se faire donner 42 recommandations super intéressantes par un comité d'experts, là. Et puis ça va dans tous les sens, ça peut être aussi d'utiliser la plateforme de Télé-Québec pour créer du tissu social aussi au Québec, puis essayer de se donner vraiment une voix pour qu'on projette un peu comment on se conçoit en tant que Québécois, au lieu de que ce soit Radio-Canada qui le détermine plus.
Oui, intéressant.
Il y a plein de belles solutions. En tout cas, c'est...
Le autre dossier par rapport à la gestion de la CAQ, mais en fait... Je vais l'appeler le dossier Nordvolt qui est un résumé, en fait, qui se résume pas non. au départ de Fitzgibbon, mais qui vient de s'imbriquer un petit peu là-dedans, ben, un petit peu même beaucoup parce que c'était son dossier, puis finalement, ça l'était plus tant que ça parce qu'il a décidé de quitter, et c'est dans tous ses droits en passant. Ce qui me laisse quand
trouvé
même.
Il a trouvé l'amour.
Mais absolument, t'as le droit. Mais sans blague, ça a fait beaucoup couler d'encre. On a mis beaucoup d'argent.
Oui.
Elle va être où, notre argent?
Et aussi, les attentes étaient très hautes. Hein? N'oublions pas le point de presse de Norvert. C'était un gros point de presse. Le gouvernement était très, très fier de cet investissement-là puis de Norvert qui arrive au Québec. Mais là, aujourd'hui, Norvert ne va pas bien. Il va pas bien. Sa maison mère en Suède, mais aussi aux États-Unis, là, ils sont en faillite.
Mais ce qui est triste, c'est que symboliquement, la CAQ en a fait le porte-étendard de, de son projet de filière batterie. Puis il y a plusieurs dossiers de la filière batterie qui vont bien.
Oui.
Mais vu que le symbole Norvert coule, ben on dirait que l'ensemble du projet coule, alors que quand même, il y a d'autres projets, notamment à Bécancourt, qui vont super bien.
Bon, pas Lyon.
Non, Lyon. Oui, c'est ça, c'est un autre. Oh, Seigneur.
Mais non, puis je veux dire, tout ça, évidemment, j'imagine que ça l'a occupé les pensées de Fitzgibbon avant qu'il quitte, mais ça aussi, là, le fait que Fitzgibbon quitte en septembre, ça a des gros enjeux pour le gouvernement. Lui, oublions pas, député de Terrebonne a quitté en septembre, donc le gouvernement a 6 mois pour déclencher des élections partielles. Fait que ça serait normalement être à l'hiver, donc en mars. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le départ aussi du caucus de Éric Lefebvre dans Arthabasca...
Youri Chassin par la suite aussi.
Youri Chassin aussi, t'as raison. La différence de Youri Chassin, c'est que lui, il va pas démissionner. Donc, il a juste quitté le caucus. Mais ça montre quand même que du côté de la CAQ, on sent quand même une certaine fébrilité. Puis je le dis pas d'un ton positif, là. On sent qu'il y a beaucoup de stress. Puis on le comprend. Regardons les cartes de QC125, de Philippe Gifournier, qui nous montrent vraiment chaque circonscription qui sont en danger. Ils sont presque tous en danger. C'est je veux dire, présentez-vous comme étant le premier ministre, là, puis vous arrivez à votre caucus, puis à peu près 90% des députés qui sont devant vous vont perdre leur siège chez les élections aujourd'hui. Ça commence à être stressant.
Mais c'est que là, ça commence à faire un bout que la CAQ est au creux dans les sondages. Donc, la CAQ aurait le temps de travailler en parallèle de la gestion quotidienne du gouvernement, de travailler des projets structurants pour essayer de remontrer qu'ils sont capables d'être en contrôle puis d'avoir une vision pour le Québec. Je les attends, les projets structurants.
Puis ajoutons, derrière tout ça, puis j'ai hâte de voir les prochains budgets qui vont arriver, mais il y a une espèce de, je vais pas dire les gros mots, mais tu sais, une espèce de spectre d'austérité potentielle arriver dans les prochaines années. Puis ça, je suis pas sûr que le gouvernement aimerait ça avoir cette étiquette-là, l'espèce d'étiquette qui a coulé le Parti libéral puis qui a fait mal, du moins, à la marque libérale.
Mais c'est déjà là, en fait, indirectement.
Oui.
La privatisation de Santé Québec, de couper 1,5 milliard, là.
Chez Hydro-Québec aussi, des privatisations, là. Donc, ouais.
Vas-tu intervenir, Marco?
Ben, en fait, t'as pas remarqué un peu là-dessus. Là, la privatisation, on le voit un peu, mais c'est pas nommé comme ça. On l'a vu quand le gouvernement a coupé de l'argent en francisation. C'est une forme de coupure. On l'a vu du côté des établissements d'enseignement supérieur au Québec, les cégeps et universités, en coupant l'enveloppe budgétaire pour, je veux pas dire l'immobilier, mais pour la rénovation des bâtiments.
Le
meilleur exemple
que
j'ai de ça, c'est qu'au cégep du Vieux-Montréal, il faut demander la permission pour changer une toilette à cette heure.
Ah.
Donne une idée à quel point ils ont coupé par certains endroits, ça fait mal. On le voit avec Santé Québec, Renaud l'a mentionné, mais tu sais, on le voit aussi avec quel autre dossier? Vicius, justement. Donc où est-ce qu'on coupe, fin des heures supplémentaires, on coupe les enveloppes budgétaires en santé. Il y avait une aide d'une allocation pour les soins à domicile aussi qui a été coupée. Donc, on est en train de le voir. On ne dit pas privatisation, on ne dit pas austérité. On dit plus efficacité, efficience, là, des beaux mots du management public. Là.
Des mots corpaux, on aime ça, hein, quand ça fonctionne. Mais bon, avance, faut que ça fasse ses preuves. J'ai hâte de voir, là, sur, notamment Santé Québec, là, le plus grand employeur de l'État, alors que le milieu de la santé veut plus de décentralisation, justement, du système de santé, si je vais grosso modo, puis très rapidement, à suivre. Chers auditeurs, auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on continuera à parler de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. À tout de suite, tout le monde.
De retour en onde. Alors, bonjour, Eden, est-ce que tu nous entends?
Oui, vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend. Alors, on rejoint ça présentement. Vous avez vu, Nicolas a dû partir, donc c'est maintenant Renaud qui a repris la barre de l'animation. On se retrouve en ce moment avec notre correspondant à l'étranger, Eden, à Paris. Ça va bien?
Ça va super bien, Zo.
Oui, ça va.
Yes, ça va super bien. Donc, Eden, toi qui es sur place, quelle est l'ambiance politique en France en ce moment?
C'est assez électrique. Comment dire? En fait, il y a eu des élections récemment, donc l'été passé, en juin et en juillet, qui faisait suite à une solution surprise de la part du président de la République. Personne ne la voyait vraiment venir. Ça a été vraiment un coup de tête, d'ailleurs, que tout le monde a crié, même dans son camp. Et ça a donné une Assemblée nationale très divisée en trois blocs essentiellement égaux, là, si je peux résumer à une manière assez simple. C'est un bloc de gauche, un bloc central et de droite, et un bloc d'extrême droite qui faisait environ chacun le tiers des députés. Je fais en sorte que le tout est insoluble. C'est impossible de créer une majorité en France, surtout dans un pays où les gens ne sont pas très habitués politiquement au compromis. Surtout avec une constitution comme la Constitution de la République qui est très présidentielle. Donc, c'est assez intéressant à voir. Et là, et moi, quand je suis arrivé le 4 septembre, le lendemain, Emmanuel Macron avait nommé un premier ministre, Michel Barnier, qui était un premier ministre issu des Républicains. Mm-hmm. Les Républicains, là, pour ceux qui s'approchent, c'est comme un.
C'est comme la droite traditionnelle.
De droite traditionnelle, mm-hmm. en France. Puis. C'est un parti qui avait environ seulement 50 députés. Donc, c'est assez particulier, parce que ce gouvernement-là a juste mis 3 mois. Il a été battu par le Bloc Central, qui met autant du bloc de la gauche que de l'extrême droite. Et là, aujourd'hui, on revient dans une situation similaire en septembre, où on vient de nommer un nouveau premier ministre, le premier ministre centriste, François Bayrou. Et on espère que le tout va tenir, mais à date, il n'y a rien qui nous indique que le gouvernement va tenir plus longtemps que l'ancien.
Oui, parce que. Mais là, la situation va être extrêmement difficile pour le nouveau premier ministre, François Bayrou, parce qu'il n'y a toujours pas de budget, en fait, qui a été adopté pour la France. Là. Eux, c'est à l'automne qu'ils l'adoptent.
Exact. Donc, en fait, exactement. Comment s'est passé la censure du gouvernement Barnier, en fait? C'est que le gouvernement Barnier a voulu faire adopter son budget pour 2025 et il n'avait pas la majorité claire des députés. Donc, il a. Il a mis en branle ce qu'on appelle l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 qui permet à un gouvernement d'engager sa confiance devant le Parlement sur un texte. Ce qui fait donc que la seule manière de battre le texte pour l'opposition, c'était en censurant le gouvernement. Mm-hmm. Donc c'est sur ce texte-là que le gouvernement a été censuré. C'est en sorte que le texte n'a pas été adopté et on n'avait pas de budget. Ce qu'ils ont fait les Français, c'est qu'ils ont fait une loi spéciale qui a permis de continuer le budget 2024 jusqu'à nouvel ordre, qui permet vraiment la continuité des services publics français, la continuité de l'État, le paiement des fonctionnaires, le fonctionnement des cartes vitales, comme on dit en France. Mm-hmm. Mais par contre, il y a certaines conséquences pour les contribuables, puisqu'il a comme effet d'augmenter les impôts d'une manière assez technique. Là. Et surtout, on avait essayé d'y mettre un amendement permettant de bloquer cette hausse d'impôts, justement, technique, mais a été jugé par un avis du Conseil d'État français, qui est un genre de tribunaux supérieurs administratifs, qui décidait que c'était constitutionnel. La présidence nationale aussi a décidé aussi. Donc, les gens vont avoir une hausse d'impôts juste parce que, essentiellement, il y a une censure.
Oui, donc juste parce que le gouvernement n'est pas capable de s'entendre.
Bien. Yeah.
Ouais.
Exactement.
Donc, on se retrouve avec une Assemblée nationale bloquée en raison de la décision d'Emmanuel Macron. Et là, Emmanuel Macron reste tenu comme principal responsable, au fond, de ce blocage-là. On entend des appels à sa démission. C'est pas nouveau, mais est-ce que tu penses que il y a plus de chances maintenant que ça ait lieu?
Bien, il n'y a jamais eu autant de chances qu'aujourd'hui qu'Emmanuel Macron démissionne, mais pour autant, les chances restent assez faibles. Mm-hmm. Emmanuel Macron, c'est un qui est très accroché au pouvoir, qui a un ego assez fort. Donc, c'est pour ça qui démissionne. Reste toutefois, cependant, si ces gouvernements se sont censurés un après l'autre, parce que la principale raison pour qu'il y ait une censure, c'est parce que c'est impossible de travailler avec la gauche pour le centre. Et c'est impossible, moralement, pour qu'ils fassent du travail avec l'extrême droite. Donc, ça devient très difficile de former un gouvernement viable. Pour autant, s'ils démissionnent, il faut dire que ça ne règle pas la situation. Parce que prenons une élection présidentielle anticipée qui aurait lieu dans quelques mois. L'Assemblée nationale resterait la même, peu importe ce qu'il emporterait. Donc, le gouvernement serait tout aussi instable. Ce qui va faire débloquer la situation, c'est à partir de juillet 2025, il va être constitutionnellement possible pour Mme Macron de rediscuter l'Assemblée notre fois. Et tout le monde s'attend à ce qu'il fasse. Et là, peut-être une élection législative anticipée, une deuxième, pourrait permettre de rebalancer ou de reclarifier le paysage politique, mais rien n'est moins sûr. Les trois blocs restent toujours présents et ils restent toujours à force quasi égale.
Mm-hmm. Mais donc, d'ici là, on va se retrouver vraiment avec, c'est ça, le blocage d'ici l'été prochain. Est-ce que la France va réussir à faire autre chose que simplement une continuation technique des finances publiques, ou est-ce qu'il va avoir un budget d'adopter selon toi?
Je pense qu'il va avoir un budget d'adopter à terme. Je peux vraiment me commettre pour dire que ça va être avec ce gouvernement-là. Je crois qu'on finit par le faire un jour parce que les Français vont finir par vraiment être amenés par la politique déjà. Mm-hmm. Parce que sincèrement, avec une sorte d'élection, ça serait vraiment facile de voir un gouvernement de centre-gauche avec un premier ministre issu, par exemple, du Parti socialiste qui travaille autant avec les partis gauche radicales qu'avec les partis centristes. Ce serait dans une démocratie normale, ça serait le cas, là. Et vraiment, on a l'air à comprendre l'entêtement des partis français, de tous les partis français à ne pas entrer dans ce jeu-là, parce que c'est la voie, c'est vraiment une seule élection. Puis ce qui est triste, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut tellement pas nommer le premier ministre de gauche parce qu'il a peur que sa réforme de retraite soit abrogée, que même si le gouvernement est censuré, il va renommer un autre gouvernement de centre. Donc, la situation ne peut pas nous permettre vraiment d'arriver à quelque chose d'ici la prochaine solution, selon moi. Mais je pense, malgré tout, qu'on va finir par adopter un budget à un moment donné, parce que sinon, le pays ne pourra plus fonctionner.
Selon la loi constitutionnelle en France, le président a le droit à deux mandats. Là, on sait que, bon, évidemment, Emmanuel Macron est rendu à son deuxième mandat, ne se représentera donc pas. Les élections sont en 2027. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Est-ce que est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle dynamique qui va s'implanter? Est-ce qu'il a le droit de relancer des élections législatives? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est quand même long, là, deux ans. Là.
Il a le droit de lancer les élections législatives à partir de juillet 2025, parce qu'il faut avoir un an entre chaque élection législative minimalement. Okay. Donc ça, il a le droit de le faire. S'il démissionne, ça déclenche une élection présidentielle anticipée dans les 45 jours environ, je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Il y a aussi d'autres possibilités un peu plus particulières. Le droit constitutionnel français n'est pas aussi clair, par exemple, que le droit constitutionnel américain sur la limite des deux mandats. On parle de deux mandats consécutifs.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est comment Macron pourrait représenter la élection en 2032, par exemple. Et on a aussi utilisé une question de mandat du type nombre d'élections apportées ou mandat du type nombre d'années au pouvoir. Et il y a certains constitutionnalistes qui pensent, et bon, moi, je parle de leur avis, mais il y en a qui pensent que Macron pourrait démissionner et s'en présenter directement. Parce que ça ne serait pas 10 ans que c'est le pouvoir. Donc, il y a peut-être cette possibilité-là qui pourrait tenter ça, mais là, on enclencherait une crise qu'on se met sans précédent. Probablement, il sonnerait le glas de la société publique, pour être honnête. D'ailleurs, on commence à voir les limites de ce système-là qui avait été taillé, d'ailleurs, sur mesure pour le général de Gaulle. Et...
Il y a peu de gens à sa hauteur en ce moment. Oui.
Ouais, exactement. C'est aussi qu'il y a un système qui est fait pour deux blocs politiques.
Mm-hmm. Eh bien, je te remercie, Eden. C'est tout le temps qu'on avait. Mais merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon succès pour la suite à Paris où tu étudies à la Sorbonne, c'est ça?
Exact, je finis mes examens là.
Eh bien, salutations d'outre-mer.
Merci à vous les gars.
Salut.
Salut, oui. Bye bye.
Bye bye.
C'est donc tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci Mathieu d'avoir été là. Merci à Nicolas d'avoir animé, qui est avec nous. Merci Marco d'avoir passé à l'émission. Merci à tous nos auditeurs aussi qui nous écoutent fidèlement.
Et encore merci à Eden.
Oui, merci à Eden, effectivement. Et bien, l'étude de presse est une dernière émission pour 2024. On se retrouve en 2025 au plaisir. Et je vous dis bye bye.